mosquée française, comme l'avait envisagé le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé. Claude Guéant rappelle que l'on n'interdit pas les messes en portugais ou l'hébreu dans les synagogues et qu'il n'est pas question de toucher à la loi de 1905. Des propos salués par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker, pour qui le ministre a vidé le débat de ses questions épineuses.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Marie-Pierre Planchon.
Ce soir, un homme qui a décidé de donner un sens à son existence. Cet ancien cadre pressé et stressé a changé de vie pour parcourir la France à pied. 1500 km pour atteindre le bonheur en traversant des lieux dits aux noms très évocateurs. Du plaisir au corps en passant par la conscience ou la sagesse. À ce soir, à partir de 21h, pour une nouvelle quête de sens.
France Inter, partenaire du Printemps Bourges Crédit Mutuel du 20 au 25 avril. 6 jours de concert, 130 artistes. Avec Aloé Black, Catherine Ringer, Metronomy, Hush Puppies, Oh Lala, Agnès Obel, Pigeon John, Célassou. Printemps de Bourges, Crédit Mutuel, du 20 au 25 avril. Renseignements sur franceinter.com.
France Inter.
La différence.
15h et pratiquement 5 minutes sur France Inter. Je vous laisse avec Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Et alors, Armadine, tu veux toujours faire griller tes merguez à l'électricité nucléaire ? Pas question que la France sorte du nucléaire, a dit Sarkozy. C'est vrai que l'on peut compter sur ce type pour préserver la santé des populations. Et c'est vrai aussi qu'un seul garnement peut à lui tout seul imposer un cancer généralisé à la France et au monde. T'as qu'à voir comment le radioactif se torche avec la démocratie ici chez nous. Salut, c'était Jeff à Chambéry.
Notre président de la République nous rassure en nous disant que nous avons des centrales nucléaires à double enveloppe et c'est la raison pour laquelle le monde entier nous les envie. En revanche, ce qu'il omet de nous dire, c'est que nous avons également des réacteurs 900 MW à simple enveloppe. Et des réacteurs 900 MW à simple enveloppe, nous en avons 4 au Tricastin, 4 à Cruas, 4 au Blayais, 4 à Bugey, 4 à Dampierre, 4 à Chinon, 2 à Saint-Laurent et enfin 6 à Gravelines. Voilà, c'était juste une petite précision, Président.
Ouais, salut Thierry, là, en Normandie. Ouais, je viens de passer devant la centrale de Paluel, là. Bah, j'avais un peu le ventre un peu serré. Après, je suis passé devant un chantier d'éoliennes au-dessus de Vol-les-Roses. Bah écoute, tu sais, en y réfléchissant bien, elles sont pas si moches que ça, les éoliennes, en fait. Hein. Allez, salut à tous.
Bonjour, Bernard, Venior. Pourquoi le coq est-il l'emblème de la France? Tout le monde sait ça. C'est le seul oiseau qui est capable de chanter les deux pieds dans la merde. En écoutant l'émission de Pascal Clark, on entend une Française qui vit au Japon, qui est en train de reprendre la direction de l'aéroport. Alors, l'ambassade de France, totalement inopérante. Bon, voilà. Notre brave compagnie Air France, qui pratique des billets jusqu'à 12 000 euros, alors qu'avec une compagnie japonaise, la jeune femme là, a réussi à avoir un billet à 1 200. Ça partait de 1 200 ou 1 600 euros jusqu'à 12 000 euros. Air France, eh, sans déconner. C'est à gerber, à gerber.
Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toute l'équipe. Concernant le lobby du nucléaire et la complicité avec les pantins qui nous gouvernent, peut-être qu'en prévision de tous les futurs malades planétaires, qu'il y a encore beaucoup de blé à se faire. Peut-être que les grands labos, Servier et compagnie, préparent une nouvelle molécule de diode en prévision du danger nucléaire planétaire. Imaginez tous ces futurs grands malades, leucémiques et cardiaques. Et ce médicament s'appellera peut-être le Mediamor. Plus fort que le Mediator, non ? Au revoir.
Petit rappel, ce soir, mardi 15 mars 2011, à 20h, au buffet de la gare de Lausanne, à la salle des cantons, on aura la chance d'avoir Stéphane Hessel, Michel Warchavski, Raji Sourani du Centre palestinien pour les droits humains, qui nous parleront sur le sujet suivant, en finir avec l'impunité pour les crimes de guerre commis à Gaza, et lever du blocus intégral. Voilà, j'espère qu'on sera très nombreux de la région de Lausanne et Genève. Merci, au revoir.
Salut, c'est pour prévenir tous les Belges, les Bruxellois, que Noam Chomsky sera à Bruxelles demain, le 16 mars, pour une conférence à l'ULB autour de la crise économique, guerre, transformation sociale et probablement aussi l'actualité au Maghreb et qui sera aussi le 17 pour un débat raison contre pouvoir au Théâtre National, débat avec Jean Bricmont et le Québécois Normand Baillargeon. Voilà, venez nombreux, salut.
C'est Michel en Corrèze. Le 25 février est décédé Daniel, 2LE. Elle y tenait beaucoup. Ça n'a pas fait la une, quelques lignes, dans les pages d'état civil du journal local. C'était quelqu'un de formidable, un peu sorcière, mais elle aimait le monde, les enfants, les animaux. La souffrance des autres était sa souffrance, sans concession. Artiste, la musique, la peinture, elle collectionnait aussi des choses simples, comme elle. Elle adorait les chats, elle en avait 30, et un âne. Elle disait toujours, tu diras du bien de moi quand je serai morte. Elle avait raison. Je vous l'ai dit, elle était un peu sorcière. C'est une chouette nana. C'était ma femme.
Oui, bonjour, Eric, militant sud dans le Puy-de-Dôme. Message en complément de l'émission sur La Poste. Amis des campagnes, bonjour. En complément à l'émission sur les services publics de la région d'Ambert, sachez que, contrairement à ce que La Poste vous raconte, dans la plupart des cas, votre bureau de poste est rentable. Pourquoi ? Parce que La Poste, quand elle veut fermer un bureau, ne tient compte que des opérations réalisées chaque jour et oublie les encours. Les encours, c'est l'argent que vous confiez à La Poste, livret A, CCP, etc. Cet argent, La Poste le fait travailler et ça lui rapporte plein de sous. Tellement de sous que pour certains bureaux fermés ou menacés de fermeture, cette manne permettrait de rémunérer jusqu'à 3 guichetiers à 35 heures. La zone d'Ambert dégage, rien qu'avec ses encours, une marge annuelle permettant de rémunérer 31 guichetiers à temps complet, alors qu'il n'y a plus que 16 agents sur le secteur. La Poste dégage donc sur Ambert une marge annuelle de 450 000 euros. Ce n'est donc pas un problème de rentabilité. Alors pourquoi ? Les mauvaises langues disent que La Poste abandonne volontairement le terrain au Crédit Agricole. En ville, La Poste perd le courrier, en campagne, elle abandonne le financier. Alors posons-nous la question, incompétence ou sabotage du service public ?
Fermeture de la poste, fermeture de l'hôpital, fermeture de l'école, fermeture du tribunal. En France, le désert avance. On a consacré la semaine dernière 2 heures de reportage à ce qui se passe à Ambert, dans le Puy-de-Dôme et autour d'Ambert. On avait choisi cette ville un peu par hasard suite à la sollicitation d'une auditrice, mais on aurait pu faire ces reportages, les reportages de Charlotte Perry, un peu n'importe où dans ce pays. Réforme générale des politiques publiques, RGPP, autrement dit démantèlement de l'État. Une révolution silencieuse qui avance doucement et inexorablement dans notre pays et qui est évidemment présentée comme quelque chose d'inévitable, de naturel et allant de soi. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la Résistance. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portée diverse. Statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme, etc. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952 sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. Désavouer les pères fondateurs n'est pas un problème qu'en psychanalyse. C'est un court texte, un extrait d'un court texte de Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF, et c'était en 2007. Ce Denis Kessler écrivait carrément ce que beaucoup d'autres avaient écrit tout aussi carrément et dit à haute voix, c'est-à-dire la destruction de ce qui était l'État-providence et qui est encore un peu l'État-providence qui a fait merveille au moment de la crise. Si la crise a moins frappé peut-être en France qu'ailleurs, c'est en grande partie avec, grâce à cette, ce système de l'État-providence. Mais on continue, malgré tout, de le détruire. Rien d'inévitable là-dedans, rien d'inexorable là-dedans. Un simple choix de civilisation. L'État démantelé, c'est un bouquin qui est sorti, on en a parlé la semaine dernière, aux éditions de la Découverte, avec le Monde diplomatique en coéditeur, Enquête sur une révolution silencieuse. Le livre a été dirigé par Laurent Bonelli et Willy Pelletier, et c'est Laurent Bonelli que nous recevons aujourd'hui pour aller plus loin par rapport à ces deux reportages de la semaine passée. Voilà notre sujet. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Daniel Mermet, l'émission La Basse et j'y suis. Je suis Marie-Pierre Bugeaud et je suis la maman d'un élève de seconde au lycée Louarmand de Poitiers. J'appelle parce que je voulais vraiment faire part de mon indignation devant le sort qui va être fait à ce lycée à la rentrée prochaine. On nous annonce en effet la suppression de 18 postes d'enseignants et des classes de seconde et de première avec des effectifs à 36 et 37 élèves en moyenne. Et ce lycée sera le plus touché de toute l'académie de Poitiers. Alors pour demander des moyens supplémentaires et permettre à nos enfants d'être accueillis dans de bonnes conditions, je demande à tous les parents de rejoindre le samedi 19 mars à 14h devant le rectorat, le collectif Un pays, une école, notre avenir, parce que nous le devons à nos enfants et parce que nous le devons aussi aux générations futures. Merci.
Bonjour Daniel, bonjour tous les auditeurs de La Basse, si j'y suis. Voilà, ce message pour vous informer que, comme dans toute la France aujourd'hui, les personnels de psychiatrie du secteur public de l'hôpital de Bayonne sont en grève contre le projet de loi qui s'appelle, entre guillemets, relatif au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. Ce projet de loi est un texte à vocation sécuritaire qui a pour but le flicage et l'autorité sur les patients. De plus, il transforme les soignants en auxiliaires de police. On ne parle plus de soins, on parle de surveillance, de dangereux malades. Les patients en psychiatrie ne sont pas dangereux dans leur ensemble. Mais il aura suffi d'un fait divers, dramatique, pour que notre cher président lance une nouvelle loi, complètement inadaptée et inapplicable, tant dans l'esprit que dans les moyens qui existent dans notre psychiatrie publique dévastée. Voilà, c'était Jean-Louis de Bayonne.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est La Basse, j'y suis avec Charlotte Perry et Laurent Bonelli, auteur de L'État démantelé, enquête sur une révolution silencieuse. Les Français ne sont pas sportifs parce que nous avons l'habitude de l'État-providence. Alors, de qui est cette phrase? Je la répète parce que il faut bien la sentir, il faut bien la saisir. Les Français ne sont pas sportifs parce que nous avons l'habitude de l'État-providence. Eh bien, cette phrase a été prononcée le 26 février 1994 par qui donc? Par Olivier Mazerolles, qui était alors directeur de l'information de RTL. Et notre confrère, Olivier Mazerolles, en 1994, avait dit l'essentiel. Pourquoi les Français ne gagnent pas aux Jeux Olympiques? Eh bien, c'est à cause de l'État-providence. Il avait même ajouté l'habitude. Voilà. Et ça, ça en dit long. Ça en dit long sur un état d'esprit à une époque, c'est-à-dire cet état d'esprit qui voulait que tous nos maux viennent de l'État-providence. Et c'est cet État-providence, Laurent Bonelli, qui est en voie de démantèlement. En tous les cas, c'est le titre du bouquin que vous publiez avec d'autres, avec Willy Pelletier et avec toute une série d'auteurs, L'État démantelé. Ça nous intéresse parce que avec Charlotte Perry, on est allé en Auvergne, figurez-vous. On est allé à Ambert, exactement, pour constater une fois de plus les effets de ces politiques qu'on appelle RGPP, Réforme Générale des Politiques Publiques. Vous allez nous expliquer tout ça, on va revenir là-dessus. Nous, on est allé sur les effets. Les effets, c'est-à-dire suppression de l'hôpital, suppression de la maternité, suppression de la poste, suppression du tribunal, réduction des effectifs de sécurité, etc. je prononce ces mots-là, et tous les auditeurs, c'est « Ah, mais c'est comme chez nous, il n'y a pas qu'à Ambert, c'était pas la peine d'aller à Ambert, nous à Châteauroux, c'est la même chose, nous à Brest, c'est la même chose, nous à Ivry-sur-Seine, c'est la même chose. » Effectivement, c'est une politique générale, et qui avance doucement, qui avance en rampant. On dit un rouleau compresseur, on a parlé d'un tsunami, oui, mais alors au ralenti, sans qu'on le voit véritablement venir. Alors ça proteste, ça conteste, mais cette contestation est difficile. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle dit cette contestation? Elle dit le profond attachement des Françaises et des Français aux services publics, aux domaines publics, aux biens publics. Et c'est cet attachement qui probablement explique la stratégie mise en place, pas seulement par l'actuel gouvernement et l'actuel président Nicolas Sarkozy, mais depuis déjà d'assez nombreuses années. Je vous laisse la parole, Laurent Bonnelic, pour que vous placiez cette histoire dans un contexte historique.
Oui, alors effectivement, la question derrière cette fermeture, c'est la question de la forme et du format de l'État qui est en question. On est dans un processus assez profond de réforme de l'État. Alors, il y a plusieurs sources à cela, évidemment. Tout ne commence pas avec la RGPP, ni même avec, sans doute plus important que la RGPP, c'est la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, qui a été votée en 2001, il faut le rappeler à l'époque, à l'unanimité parlementaire, exception faite du groupe communiste qui, à l'époque, s'était abstenu. Donc, tout ne date pas du début des années 2000. On est sur un processus très très long sur, finalement, qu'est-ce que ça doit être l'État. Alors, il faut revenir en arrière. Pour cela, il y a un moment de foisonnement, de bouillonnement intellectuel sur la forme contemporaine de notre État, c'est la fin des années 30. La fin des années 30, grosso modo, le libéralisme antérieur, celui du 19e siècle, est discrédité. Il est discrédité parce qu'il y a eu la crise de 29, crise économique déjà, avec des effets sociaux assez dramatiques, et le modèle libéral, en tout cas à l'époque, accusé d'avoir pas su faire face à cette crise, d'avoir pas su en gérer les effets qui produisent la montée du nazisme en Allemagne, qui produisent le communisme en Union soviétique, qui produisent le fascisme en Italie, qui produisent la guerre d'Espagne, etc. etc. Bon. Donc à cette époque-là, il y a un foisonnement intellectuel de réflexion sur qu'est-ce que ça va être. C'est là qu'on va voir naître la question du corporatisme. Par exemple, le corporatisme qui va se développer sous Vichy. C'est là qu'on va voir se développer le planisme, tel qu'on va le voir en URSS. Ça va être là qu'on va voir se développer quelque chose qui est le néolibéralisme, qui est celui qui va l'emporter, mais pas à ce moment-là. À l'époque, vous avez une réflexion du renouvellement du libéralisme. Il y a des gens qui disent, le libéralisme tel qu'il était, ça ne va pas. Il nous faut un libéralisme organisé par l'État. Organisé par l'État, c'est-à-dire dont l'État serait le garant, alors, pas un État qui intervient dans l'économie, mais un État gendarme qui fixe les règles du jeu économique, qui précisément, on le dit à l'époque, définit un code de la route des échanges économiques et qui peut sanctionner. C'était l'idée qu'on va voir développée par Friedrich Hayek, etc. Ces gens-là, après la guerre, ils ont perdu intellectuellement. Pour une raison très simple, le patronat, je dirais, discrédité par la collaboration. C'est-à-dire que les forces sociales qui sont présentes à la libération, ce ne sont pas celles-là. On a un très fort mouvement communiste, il faut le rappeler, des mouvements issus de la résistance. Et c'est le moment, en France, où on va voir cet interventionnisme d'État se développer très fortement. C'est les nationalisations des secteurs qui avaient collaboré, notamment des minerais, de Renault, tout un tas de choses comme ça. Et c'est ce qui va donner, finalement, la forme de l'État français tel qu'on le connaît, tel qu'il se développe dans les années 50, 60, 70. Or, ces néolibéraux, qui ne vont pas arrêter leur travail, je dirais, vont reprendre du poil de la bête, si je puis dire, dans les années 50, 60 et 70, notamment parce que leurs idées vont être prises alors, par certaines fractions du patronat, qui revient dans le jeu, et aussi par des hauts fonctionnaires, notamment de la direction du budget, qui vont commencer à avoir en tête l'idée que finalement tout ça est très coûteux, que tout ceci pose un certain nombre de problèmes et qu'il faut faire des économies. Et c'est ce qu'on va voir par exemple avec la RCB, la rationalisation des choix budgétaires, inventée à la fin des années 60, qui est déjà une espèce de prodrome, si vous voulez, de l'idée qu'il faut réformer l'État. Ça, si vous voulez, c'est ce mouvement. Alors, la critique de l'État, elle prend d'autres formes, elle prend une forme de gauche dans les années 70. L'État, pour les anti-marxistes, l'État c'est vu comme le monstre bureaucratique. Il y a une convergence d'une critique néolibérale de l'État, une convergence et d'une critique de gauche de l'État dans les années 70. Je passe là-dessus. Mais ces néolibéraux, si vous voulez, reprennent véritablement un poids tout à fait considérable dans le champ politique, dans certaines fractions de l'élite d'État dans les années 80. Et ils vont être relayés par des mouvements internationaux qui les appuient. Ces mouvements internationaux, c'est la révolution thatchérienne en Grande-Bretagne à la fin des années 70. Donc Margaret Thatcher qui est élue sur un programme qui s'appelle Rolling Back the State, c'est-à-dire faire reculer l'État, qui va développer ce qu'on va appeler le New Public Management, c'est-à-dire une forme de nouvelle gestion publique qui va consister à faire maigrir les administrations d'État, à mettre des indicateurs de performance. Déjà, c'est très valable là. Mais on retrouve ça aussi au Canada, on retrouve ça aussi en Nouvelle-Zélande, on retrouve ça, bien sûr, aux États-Unis réganiens, mais c'est un mouvement relativement général. Et un mouvement général qui va se développer également dans des institutions internationales qui vont devenir des très puissants relais de ces manières de penser. Je pense au Front monétaire international, je pense à la Banque mondiale, je pense à l'OCDE, qui vont être, si vous voulez, des endroits dans lesquels, finalement, s'échangent, s'élaborent des espèces de répertoires, vous voyez, de comment faire de l'action publique. Comment faire de l'action publique? Bon, on échange des recettes et on met en circulation des recettes. Et ces recettes, elles circulent d'autant mieux des institutions internationales vers les gouvernements que les gens circulent. Je vous ai parlé de la LOLF tout à l'heure. Qui met en place la LOLF en France en 2000? La conseillère de Lionel Jospin qui met en place la LOLF en 2000, elle vient d'où? De la Banque mondiale, après être passée par l'OCDE. C'est-à-dire que vous avez une circulation, vous voyez, des gens et des idées, finalement, qui passent d'expériences nationales à des institutions internationales, d'institutions internationales à des gouvernements. Donc vous avez une circulation, vous voyez, de ce répertoire d'actions de nouvelle gestion publique, etc., qui finalement infuse pour la plupart des États, à tel point qu'il est difficile aujourd'hui pour un gouvernement de dire finalement, je m'en moque, je n'ai pas intérêt à le faire, ça ne m'intéresse pas.
Le problème des effectifs dans la fonction publique,
TF1.
J'ai proposé de ne pas remplacer un départ sur deux.
5 février 2007.
Parce que je veux que les fonctionnaires soient mieux payés.
Nicolas Sarkozy.
Mieux formés, mieux considérés, mais on ne peut pas continuer à augmenter le nombre de nos fonctionnaires alors même que nous avons l'endettement qui est le nôtre et le déficit qui est le nôtre. Et je dis d'ailleurs aux fonctionnaires de France, ceux qui promettent d'embaucher toujours plus de gens ne sont pas ceux qui vous augmenteront. Je préfère moins de fonctionnaires, mieux payés, mieux formés, mieux considérés, mieux respectés. Mais il va falloir faire des économies. Et ces économies sont parfaitement incontournables si on veut baisser les impôts et réduire la dette de la France. Parce qu'un pays endetté, c'est un pays qui n'est pas libre.
Je crois que ça, si vous voulez, c'est un mouvement donc qui est un mouvement général. Mais il fonctionne en France sur le mode d'une transformation de ce que Pierre Bourdieu appelait la noblesse d'État, c'est-à-dire la haute élite administrative, se transforme à partir, grosso modo, alors dans toute la période que j'ai décrit, après-guerre, et notamment dans le bouquin, il y a Alain Garrigou qui a fait un beau texte, je crois, sur aujourd'hui des gens qui font l'ENA, donc l'École nationale d'administration, c'est-à-dire l'école qui donne accès, si vous voulez, aux postes les plus importants dans l'État.
Toute cette noblesse d'État.
Cette noblesse d'État. Aujourd'hui, 30% des gens qui préparent l'ENA viennent d'HEC. Des hautes études commerciales. C'est-à-dire qu'ils passent à l'ENA, si vous voulez, pour avoir une sorte de tampon, si vous voulez, de légitimité supplémentaire d'État. Et évidemment, si vous commencez votre carrière à HEC, c'est pas exactement la même chose que si vous commencez votre carrière à l'ENA en vous disant « je vais servir l'État, le service public, etc. » Si vous faites des hautes études commerciales, c'est parce que vous avez dans la tête des modes de fonctionnement et des envies qui sont les envies du monde économique, le plus simple. Et on va voir donc comme ça, se diffuser dans la haute fonction publique, des gens qui viennent du privé, qui vont donc passer du privé au public, du public au privé. Vous avez une accélération de la circulation entre public et privé.
Et pantoufles.
Alors, auparavant, le pantouflage, c'était un haut fonctionnaire qui, après 20 ans ou 25 ans de carrière, passait au privé. C'était ça. Donc, grosso modo, il servait l'État pendant 20 ans, et au bout d'un moment, il disait « bon, maintenant, je peux négocier mon carnet d'adresses », et il prenait un poste dans une banque, dans une grande entreprise, où il était bien payé. Aujourd'hui, le pantouflage, c'est plus cette forme-là. Aujourd'hui, c'est une circulation accélérée, très rapide, d'une administration à une entreprise privée, d'une entreprise privée à une entreprise nationale, d'une entreprise nationale à un cabinet ministériel, et retour. Et ces gens qui circulent très rapidement, je dirais, contribuent là aussi à diffuser dans les administrations publiques le répertoire du management venu de l'entreprise privée, l'obsession pour les coûts, l'obsession pour la rentabilité, ce genre de choses qui, auparavant, je dirais, n'étaient pas au cœur de la mission de service public. Et je crois que dans les reportages que vous êtes allés faire, je crois que ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir qu'on a deux logiques qui s'affrontent. On dit, être un postier, c'est aussi s'apercevoir, s'assurer que, grosso modo, les personnes âgées de la région sont toujours vivantes, qu'elles ont un contact humain avec une institution. Bon, ça, évidemment, pour quelqu'un qui a les yeux fixés sur la courbe des coûts et des bénéfices, évidemment, le coût que représente le fait qu'un postier ait distribué une lettre au fin fond d'un village, c'est un coût démesuré par rapport à ce que ça rapporte, le prix d'un timbre. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on a appelé ça démantèlement, c'est que la construction de l'État, telle qu'on l'a vu, c'est un processus lent, très progressif, qui a protégé certaines activités des logiques marchandes. L'éducation, bien sûr, la santé, mais également la poste, les télécommunications. L'idée d'un service public de télécommunications, c'était que tout le monde ait accès, où qu'il habite, à la même possibilité de communiquer, d'avoir un téléphone. Évidemment, ça coûte plus cher de mettre un téléphone dans une vallée des Pyrénées ou en Auvergne qu'au centre de Paris. Mais l'idée, c'était que vous ayez la même chose. Et le démantèlement, étymologiquement, démanteler, c'est enlever.
C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on avait la même chose, parce que là, il y a 100 lignes téléphoniques groupées dans un quartier de Paris et une ligne téléphonique au fond d'une vallée des Pyrénées. Mais les 100 lignes téléphoniques qui sont groupées rapportent suffisamment pour qu'on puisse payer la ligne isolée dans les Pyrénées. Donc, c'est l'idée de solidarité, ce qui est à la base de tous ces services publics, c'est l'idée de solidarité. Et c'est, on le voit en le même, avec quelques notions d'histoire, il suffit d'être un peu allé à l'école et d'avoir compris ce qu'était la République par rapport à l'Ancien Régime. La République, grosso modo, transporte, est portée par cette idée de solidarité et d'égalité. Et c'est ce qui construit notre doxa, enfin ce qui est évident pour chacun d'entre nous. Or, on ne parle que de la lettre qu'on va porter au fond de la vallée et qui évidemment va coûter cher par rapport au prix du timbre. On ne parle que de ça et on dit c'est pas rentable. Et là, on a la notion de rentabilité. Qu'est-ce que c'est que la rentabilité ? Est-ce que c'est ce luxe formidable ? C'est génial que la petite dame qui est au fond de la vallée reçoive la lettre de sa petite fille qui est je ne sais où pour les fêtes de fin d'année. C'est merveilleux, c'est formidable. Ça, il y a une rentabilité. Il y a une rentabilité humaine, de solidarité, de valeur, etc., auxquelles nous sommes tous attachés. Est-ce que c'est ça la rentabilité ou bien est-ce que c'est la valeur du timbre ?
Oui, c'est ça. Mais ça va même plus loin encore que la rentabilité sociale par rapport à une vieille dame. C'est la question du développement du service public n'est pas juste une dimension altruiste. C'est aussi des dimensions qui ont à voir avec la puissance d'un État. La puissance d'un État, c'est notamment sa capacité à avoir de l'aménagement du territoire. Il y a eu des politiques qui, notamment toutes les politiques de décentralisation et toutes les politiques d'aménagement du territoire des années 60, etc., visaient à lutter contre l'ultra-centralisation parisienne antérieure. C'est-à-dire en disant, en France, il y a Paris. Et puis, comme le disait un auteur fameux, le désert français. Précisément, le service public, c'est ce qui organise aussi, tout simplement, l'occupation du territoire. C'est-à-dire que si vous voulez être en Auvergne et que vous voulez pouvoir vivre en Auvergne, il y a quand même un certain nombre de services minimums dont vous avez besoin. Vivre dans un village quand vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de service de santé, vous n'avez rien du tout, c'est juste tout simplement impossible. C'est ce qui est très intéressant dans le mouvement que l'on voit s'accélérer, je dirais, à partir du début des années 2000, c'est précisément qu'on a des logiques complètement contradictoires dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'on a d'une part des logiques qui ont à voir avec l'aménagement du territoire, avec le maintien des territoires ruraux, donc y compris d'ailleurs des lois qui organisent cela, qui disent, si vous vous installez dans telle zone, des entreprises vont avoir des exonérations de charges pour qu'elles aillent s'implanter dans des endroits qui sont peu peuplés, pour éviter ce genre de désertification. Et à la fois, la logique que vous venez de décrire, qui est de dire, combien ça coûte, coût-bénéfice. Des lignes TGV, ça rapporte plus que ça ne coûte. Des lignes de TER, ça coûte plus que ça ne rapporte. Donc, on ferme les lignes TER et on maintient les lignes TGV. Je crois que ce qui est très important là-dedans, c'est que finalement, ce qui s'est transformé, c'est la logique même qui sous-tend la question d'une grande partie de l'activité publique. On peut et on doit, à mon sens, assumer qu'il existe un certain nombre d'activités qui ne sont pas des activités rentables, qui doivent être régies par la loi du marché. C'est précisément le service public, le garantie d'un service de service minimum à la population pour, sur un certain nombre d'items que l'on peut définir politiquement, la santé, l'éducation, etc. C'est quelque chose qui peut se faire par la répartition collective, c'est-à-dire par l'impôt, par ce genre de choses-là. Je crois que l'invasion de la logique du coût, qu'on la voit dans tous ces secteurs-là, elle devient justement délirante. Il y a une anecdote qui est, je crois, très marrante là-dessus, c'est ce qu'on a vu avec les mouvements pour la neige au moment des fêtes de fin d'année. Si vous prenez l'équipement, l'équipement avait, dans le passé, tout simplement, c'est des neigeuses qui étaient concentrées à divers espaces du territoire. On a dit, ça coûte beaucoup trop cher, parce qu'il faut à chaque fois un gardien, il faut un dépôt, il faut des mécaniciens. On va concentrer les gardiens, les mécaniciens et toutes les déneigeuses au même endroit. Sauf que quand il y a de la neige, ça veut juste dire que les déneigeuses, elles sont bloquées au même endroit. Et donc, elles ne peuvent sortir que tout doucement du premier dépôt pour aller déneiger les routes. Et donc, on a des embouteillages incroyables, alors qu'apparemment, puisqu'elles étaient en 10 points différents, tout simplement, elles pouvaient se rejoindre. Et c'était ça, la logique.
Alors, s'agissant du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi ?
Nicolas Sarkozy, 8 janvier 2008.
Que je vide des caisses qui sont déjà vides ?
Le plan de secours aux banques décidé par la France le 13 octobre 2008 prévoit une garantie des prêts interbancaires s'élevant à 320 milliards d'euros. Budget général de la France pour 2007. Travail et emploi.
Qu'est-ce que vous attendez de moi ?
12 milliards d'euros.
Que je vide des caisses qui sont déjà vides ?
François Fillon, 21 septembre 2007.
Il faut utiliser des images, et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, pour faire comprendre à des agriculteurs qui demandaient toujours plus à l'État. Je leur ai dit, au fond, que si la France était une entreprise, eh ben, elle serait en état de cessation de paiement.
Aide du gouvernement français au renflouement de la banque franco-belge Dexia, 3 milliards d'euros.
Et il faut que tous les Français prennent conscience qu'il est temps aujourd'hui de mettre un terme à des solutions de facilité qui depuis 25 ans ont été employées et qui placent notre pays dans une position de faiblesse.
23 septembre 2007.
Et c'est dans ce contexte
TF1.
Que le projet de loi de financement de la sécurité sociale sera présenté demain. Le déficit dérape, le gouvernement devra miser sur de nouvelles recettes, par exemple franchise médicale ou la taxation des pré-retraites.
En grâce.
8 décembre 2006. Dominique de Villepin.
Comprenons que l'économie, c'est la vie. Il y a des décisions qui doivent être prises tous les jours et qui s'imposent tous les jours et qui doivent être prises en fonction de l'intérêt général de l'entreprise. L'intérêt général de l'entreprise.
Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que je vide des caisses qui sont déjà vides ?
Laurent Benelli, l'État démantelé, le démantèlement de l'État et toutes ces réformes nous sont présentées comme inexorables, on ne peut pas faire autrement, soyons réalistes. Il y a aussi les injonctions européennes. Oui, nous pourrions, nous, bien sûr, nous avons cette culture française d'attachement au service public, etc. Mais enfin, voyez maintenant, aujourd'hui, on n'est plus seul, il y a la mondialisation, il y a cette Europe que nous sommes en train de construire, et nos voisins, eux, sont déjà dans le management. Ils ont laissé tomber l'État-providence, c'était trop gras, il y avait trop de graisse, cet État obèse. Donc, vous voyez, je partage un peu votre point de vue, moi aussi, je suis très attaché au petit bureau de poste, mais vous voyez, c'est impossible. Désormais, il faut être réaliste. Pour quelques timbres, eh bien, on ira les acheter à l'épicerie du coin. Et puis, les écoles, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas avoir moins de temps de gosses dans l'école. Donc, on va réduire, etc. Et on arrive à la devise de Nicolas Sarkozy, c'est 1 sur 2. C'est-à-dire qu'on ne remplace que la moitié des fonctionnaires qui partent en retraite. Et en 3 ans, entre 2007 et 2010, on a supprimé de cette façon 100 000 postes de fonctionnaires en France. Est-ce que c'était inévitable? Est-ce qu'il n'y avait pas quand même des réformes? Je pense par exemple à l'arrivée d'Internet, à l'arrivée de l'informatique dans l'administration. Je suppose que ça bouleverse les choses et que ça induit, au moins ça, au moins cet élément-là, induit des réformes.
Alors, je crois que le danger serait de dire, bon, c'est de dénoncer le démantèlement actuel des services publics et de penser que le service public des années 70, c'était le miracle réalisé. Il y a tout un tas de problèmes quant aux services publics, qui ont été pointés d'ailleurs par tout un tas d'une série d'auteurs. La question qui est en train de se poser, c'est évidemment, le service public évolue. Il évolue en raison des technologies, il évolue en raison des publics auxquels il est confronté, il évolue en fonction de toute une série de facteurs exogènes, je dirais, ça c'est quelque chose de très important. Il évolue sous l'effet de la transformation de la composition du service public. On a notamment des gens qui sont de mieux en mieux formés, l'élévation, vous avez une élévation générale du niveau de diplôme des gens à la fonction publique. Bon, il y a tout un tas de choses de ce point de vue-là qui se transforment. Il évolue également sous l'effet de phénomènes de décentralisation. Je dirais aujourd'hui, les collectivités territoriales prennent tout un tas d'activités qui jusque-là étaient exercées par des services publics d'État. Bon, il y a tout un tas de transformations qui affectent évidemment le service public. La question de savoir, est-ce que finalement c'est inévitable? On dit, bah oui, la crise, etc. Bon, je voudrais juste pointer 2 éléments. Le premier, c'est que c'est tellement évident que on a l'impression que c'est pas besoin de le dire, mais quand il y a eu une crise bancaire tout à fait importante, on a trouvé des fonds tout à fait importants pour réinjecter dans le système financier sans que cela ne pose manifestement de problème à personne.
Puis d'un coup, on a repensé à l'État.
Et on s'est rendu compte qu'on avait des centaines de millions de dollars ou d'euros qu'on pouvait réinjecter pour recapitaliser les banques, qui aujourd'hui d'ailleurs demandent des taux d'intérêt tout à fait importants aux États qui les ont recapitalisés. Ce qui est une sorte de paradoxe assez amusant. Bon. Donc je crois qu'il y a des transformations économiques, il y a des injonctions économiques, mais je crois qu'il ne faut jamais oublier que l'économie est sous-tendue par des rapports de force politique. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Vous avez une anecdote qui est très amusante. C'était le ministre des Finances de Ronald Reagan qui lui avait suggéré cette idée. Ronald Reagan, avec la pédagogie qui est la sienne, disait tout simplement, moi je veux, il voulait évidemment faire régresser l'État. Il disait, c'est très simple. L'État est comme un enfant obèse. Un enfant obèse qui mange des bonbons. Il dit, et quand vous lui donnez des bonbons à manger, vous lui dites d'arrêter de manger des bonbons et il continue malgré tout à manger des bonbons et à grossir jusqu'au moment où vous vous rendez compte que la seule manière de l'empêcher de grossir, c'est de lui couper son argent de poche. Et c'est ce que Sébastien Gex appelle la politique des caisses vides. C'est là qu'on va voir se développer à partir des débuts des années 80 des politiques fiscales tout à fait cohérentes, pensées, pour organiser structurellement la pauvreté des États. C'est ainsi, par exemple, que l'on va voir tout un tas d'États faire des réductions en matière d'impôts. Et je vous rappelle, par exemple, qu'aux États-Unis, entre le début des années 80 et le milieu des années 90, l'impôt sur le revenu est de passer de 80 à moins de 40%. C'est-à-dire qu'on diminue l'assiette de l'impôt. On privatise des activités parfaitement rentables. Vous ne comprendriez pas en France comment les autoroutes, qui ont été un investissement d'État, qui ont été amorties et qui sont extraordinairement rentables, sont vendues pour une bouchée de pain au privé. C'est-à-dire qu'on organise structurellement, si vous voulez, la pauvreté de l'État. Et évidemment, une fois que vous avez organisé la pauvreté structurelle de l'État, vous pouvez dire, attendez, il faut fermer des maternités, il faut fermer des hôpitaux, puisque vous voyez bien, on n'a pas les moyens. Ce qui est beaucoup plus compliqué si vous dites les caisses sont pleines. Donc il y a une dimension profondément idéologique, si vous voulez, voilà, derrière cela, je crois, qui est véritablement importante et qui est liée à deux choses, qui est liée au rapport de force à l'intérieur de l'État. Je crois que c'est un élément très important, c'est que l'État, ce n'est pas une entité unifiée. Un policier et un médecin ne voient pas le monde de la même manière. Un inspecteur du ministère du budget, l'inspecteur des finances qui est au budget, n'a pas dans la tête le même sens du service public, de ce qu'est l'intérêt général, que par exemple un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation. Et on a vu dans les transformations et dans les luttes internes à l'intérieur de l'État, ceux qui ont pris le pouvoir, le dessus aujourd'hui, c'est véritablement le ministère du budget. C'est la direction du budget qui, elle, donne le là, si vous voulez, de ce que doit être l'État. Et vous savez comment ils appellent les autres ministères ? Ils appellent les autres ministères les ministères dépensiers.
Oui.
Ministère dépensier, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont les yeux rivés sur les grands équilibres macroéconomiques, et pour eux, c'est ça l'intérêt général. Ce à quoi quelqu'un du ministère de l'équipement peut vous dire non, l'intérêt général, c'est qu'on ait des routes qui soient en bon état et que les gens puissent circuler sur ces routes. Quelqu'un de l'éducation nationale, non, c'est qu'on élève, par exemple, le niveau scolaire des enfants des milieux populaires, etc. Et dans ces luttes à l'intérieur de l'État, c'est ces gens-là qui l'ont emporté, et ils l'ont emporté parce qu'ils ont trouvé une alliance inédite avec des hommes politiques nouveaux. Je crois que là, c'est ce qui change, si vous voulez. La RCB, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les années 70, ça a été un échec patent parce qu'aucun homme politique ne s'est intéressé à cette question-là. Aujourd'hui, vous avez une fraction importante du monde politique et des élites politiques, de droite, mais aussi de gauche, et c'est important, qui, je dirais, ont une alliance, si vous voulez, un peu improbable, avec ces hauts fonctionnaires du budget, sur la reformulation, le reformatage, si vous voulez, de l'État.
Dire que si par exemple vous avez un accident, que vous avez besoin d'accéder à un bloc opératoire, le plus proche.
Il vaut mieux mourir d'abord. Ouais, crois, ouais. Si on meurt, on a plus de chances d'aller au paradis que d'aller à l'hôpital. Je pense qu'il vaut mieux mourir si on a un accident. Hein ? Il n'y a plus rien.
Si les petits collèges tombent, les plus gros suivront. Quand tous les collèges seront tombés, où iront les élèves ? Où iront-ils tous ?
Dans le privé.
Il a raison.
Le service public, on n'en parle plus du tout aujourd'hui, c'est le profit, le profit, le profit.
Nous avons perdu notre maternité, nos soins intensifs, notre bloc opératoire. Mais les choses se font très cachées. Et là, depuis quelque temps, c'est quand même un rouleau compresseur qui a attaqué le service public dans sa globalité.
Comme il y a beaucoup d'enfants qui vont rentrer en 6e dans 2 ans, ils parlent de la fermer aussi, notre école. Donc plus d'école, plus de boulangerie, plus rien.
Et c'est une autre raison d'être, c'est notre raison de vivre. Parce qu'il est bien évident que si on porte un coup au service public chez nous, c'est la vie qui s'en va. C'est vraiment la vie qui s'en va. C'est-à-dire, c'est l'impossibilité de rester une terre d'accueil.
Espérons bien qu'on maintiendra notre poste de vivrogue. Parce qu'on tient quand même à notre canton, on tient à notre poste, comme on tenait à la gendarmerie, comme on tenait à tous les services publics.
On ne demande pas le grand soir, hein.
si tu veux. On ne demande pas le grand soir, on ne demande pas des choses comme ça, mais on demande de pouvoir vivre dans nos territoires, de pouvoir y vivre, y travailler, se soigner. On demande ça, on ne demande rien d'autre.
Laurent Bonelli, comment tout ça est programmé? Parce que quand on est, comme on dit, sur le terrain, quand on est à Ambert, par exemple, dans le Puy-de-Dôme, on voit d'abord, on va supprimer à l'hôpital un service qu'on va considérer comme obsolète pour tel ou tel service. Il faudra aller à Clermont-Ferrand. Puis après, c'en est un autre. La maternité, on est obligé de la fermer, etc. C'est peu à peu. On a l'impression, je pense à la poste, les écoles, etc. Ça a l'air d'être programmé doucement. On a le temps pour pouvoir passer, pour pouvoir être non pas accepté, parce qu'il y a un refus profond, mais pour que ça fasse pas trop de vagues. Parce que ceux qui protestent contre cela, les syndicats, les communautés, les groupements, les associations de toutes sortes qui protestent contre ça, évidemment, ne peuvent pas tenir pendant 2, 3 ans, 5 ans et plus. Il faut un souffle que personne ne peut avoir. Et c'est sur le long terme, comme ça, que ces choses se modifient de façon rampante, peu à peu, dans une sorte de brouillard.
Alors, je crois que c'est très juste. C'est-à-dire que quand on a fait cet ouvrage, ça partait du... Moi, je travaille sur les questions de police, hein, vous savez, et je trouvais des contradictions. À la fois un gouvernement qui fait de la sécurité son étendard, disons, et qui, en même temps, ferme des commissariats. Donc, comment on tient cette contradiction? Bon. Et la grande difficulté, c'est pour ça qu'on a fait ce travail collectif, c'est d'essayer de donner une visibilité sur l'ensemble des transformations qui se passent en même temps dans des univers très différents. Qui connaît à la fois ce qui se passe au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Justice et dans la police, par exemple? C'est impossible à tenir. Donc on a essayé, vous voyez, de donner cette vision transversale des choses. Parce que le mouvement, en fait, qu'on en observe à l'issue de cette première phase d'enquête, c'est pas terminé, il faudra qu'on continue. C'est quoi? C'est un double mouvement. Le premier, vous l'avez décrit, c'est ce mouvement de compression du format de l'État. On ferme les services, etc. Alors pourquoi est-ce que on le fait différemment? C'est qu'en fait, on s'aperçoit que on compresse donc 100 000 fonctionnaires qui ont été supprimés, on ferme des hôpitaux, on ferme tout ça. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième mouvement dans cette compression, on délègue des activités au privé. Et ça, ça va toucher, par exemple, alors dans l'éducation nationale, par exemple, la lutte contre l'échec scolaire, aujourd'hui, c'est délégué des associations. On met en place des partenariats public-privé dans la culture. L'armée délègue une partie de la sous-traitance, de l'entretien du matériel, par exemple, à des entreprises privées, qu'on délègue vers le privé. On privatise. Ça, c'est valable pour la Poste et Télécom. Alors, jamais de front, jamais en disant on va privatiser la Poste.
Oui.
Avec des mouvements qui épousent, et c'est ça qui est difficile à rendre compte, qui épousent, si vous voulez, l'histoire singulière de ces institutions. On ne fait pas la même chose à la Poste, où il y a des centres de tri avec énormément de personnel, très syndiqués, qui vont être des points de résistance, et à Télécom, où on a plutôt des cadres, plutôt individualisés. Et ça épouse un peu l'histoire singulière de chacune de ces institutions. Donc, on compresse, on privatise, et on délègue aussi vers les collectivités territoriales.
Vous dites « on », mais qui met en place ces réformes?
Alors,
qui les planifie aussi efficacement dans le temps?
Alors, c'est la grande difficulté de cette histoire, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un centre. Et,
oui.
Et ça aurait été très très bien, il y aurait une main invisible, il n'y en a pas. Je crois qu'on a terminé, j'en dis dans l'introduction, on pourrait paraphraser Norbert Elias, on disait, voilà, il y a une transformation, donc la refabrication de l'État, laquelle on observe, je dirais, est née de multiples projets, au pluriel, mais sans projet, au singulier, animée par de multiples finalités, au pluriel, mais sans finalité, au singulier.
Oh là.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui.
Ça veut dire tout simplement que, grosso modo, il n'y a pas un projet. Il y a des groupes différents dans l'État avec des intérêts propres qui veulent faire un certain nombre de choses. Et ces gens-là nouent des alliances avec d'autres groupes qui veulent faire d'autres choses. C'est ce qui explique à la fois qu'on ait un mouvement assez général de réforme, c'est-à-dire qu'on le voit, on a vraiment un front commun. Alors, il y a des intérêts. Je vais vous donner un exemple très concret pour illustrer ce que je dis. Et en même temps, il n'y a pas une cohérence d'ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui ont dans la tête « voilà l'État français » en 2050 tel qu'il sera. C'est dommage. Bon, au moins, on saurait
quoi s'en tenir. On pourrait discuter d'un projet.
On pourrait discuter, on pourrait dire à quoi est-ce qu'on se tient. Non.
Ce que vous dites là est la force de cette réforme, parce qu'elle est multipolaire.
Elle est à visage multiple. Grosso modo, j'ai parlé de la compression. L'autre transformation qui est transversale, qu'on voit moins, c'est ce qu'on a appelé la caporalisation de l'action publique. C'est-à-dire renforcement partout des chaînes de contrôle. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a dit l'État se défait, tout ça. En fait, c'est pas vrai. L'État se renforce dans tout un tas de secteurs. Les directions départementales de l'équipement, de l'agriculture disparaissent dans ce mouvement au profit de deux directions départementales, direction départementale des territoires et des populations, et c'est le préfet qui tient la main. Les agences régionales de santé, c'est un préfet sanitaire qui reprend tout ça en main. Dans les hôpitaux, on a nommé des chefs d'établissement aujourd'hui, les chefs d'hôpitaux, ils n'ont plus à s'embarrasser de leurs collègues, etc. C'est un chef d'entreprise qui tient ces hommes. À l'université, c'est la même chose. Un président d'université, c'est celui aujourd'hui qui est le petit manager, qui tient tout. Mmh. Et ce mouvement, il vient d'où? Bah, il vient tout simplement, sans doute, de la faiblesse actuelle d'un certain nombre de nos gouvernants. On est aujourd'hui avec des groupes gouvernants, notamment, qui sont des professionnels de la politique au sens strict. Si vous regardez le groupe sarkozyste, les gens qui les entourent, ce sont des professionnels de la politique, des gens qui n'ont pas connu d'autres métiers que la politique. Mmh. Et ce sont des gens qui ont tendance à essayer de casser toute forme d'autorité alternative. L'autorité des magistrats, on l'a vu récemment. L'autorité des ambassadeurs, l'autorité des militaires, l'autorité des enseignants du supérieur, l'autorité des syndicats. Toutes les formes d'autorité professionnelles préconstituées, si vous voulez, ils essaient de les briser en disant la seule autorité valide, finalement, c'est l'autorité politique.
Et donc, ils passent par les préfets.
Mais même en passant par les préfets, ils ont du mal. Puisque vous avez vu que, par exemple, les préfets se sont regroupés dans une association qu'on peut appeler l'association des préfets battus. C'est-à-dire, grosso modo, ils essaient de court-circuiter, vous voyez, le fonctionnement ordinaire de l'administration. Et donc, ils cassent toutes les routines de travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas des gens qui organisent un nouvel État. On a des gens qui désorganisent la manière dont ça fonctionnait pour asseoir leur propre légitimité. Mmh. Alors, comment ça tient? Ça tient, d'une côté, avec des résistances. Vous voyez, les diplomates, les militaires, les magistrats, les préfets qui se plaignent. Non, ça, c'est très important. Ça tient parce que les agents du service public les plus ordinaires, eh ben, ceux qui ont été socialisés dans un état antérieur du service public, qui étaient là pour rendre service aux gens, prennent sur eux. Ils essaient de faire en sorte que, alors qu'on n'a plus les moyens, alors que tout ça, ils essaient malgré tout de faire en sorte que ça tienne, de remplir leur mission de service public.
Et là, ça, c'est très douloureux.
Ça donne des choses tout à fait douloureuses. Ça donne des gens qui vivent l'échec comme personnel, des gens qui suicident, des gens qui tombent en arrêt maladie, etc. Donc, il y a une souffrance professionnelle très importante. Ça tient, si vous voulez, pour cela. Mais, et c'est sans doute un élément d'espoir, je dirais, c'est que, grosso modo, le mouvement de réforme actuel, tel qu'il est, c'est un mouvement qui est lié de coalitions hétérogènes. Il n'y a pas ce projet global. Mmh. C'est fragile, l'alliance de la réforme actuellement. Cette réforme, elle ne peut fonctionner que parce qu'elle est très rapide, parce qu'elle est dans le mouvement. On passe d'une réforme à l'autre, on saute d'une réforme à l'autre. C'est-à-dire que toute inertie, tout ralentissement, toute résistance casse cette dynamique de mouvement et fragilise d'autant les alliances hétérogènes qu'il apporte. Quand un mouvement s'arrête, qu'il faut négocier, que ça a résisté, on le voit d'ailleurs par exemple sur les magistrats. Et les magistrats, le gouvernement a reculé très rapidement sur cette question. Pourquoi? Parce que ça devient impossible, à un moment donné, de tenir des alliances. Donc je crois que l'un des éléments, enfin, je dirais qu'il y a d'espoir, c'est que toute forme de résistance professionnelle, toute forme de résistance territoriale, des territoires qui organisent des résistances autour de la défense de pôles de service public, de ce genre de choses. Mmh. C'est des choses qui fragilisent, à terme, je dirais, les alliances entre, je vous dis, un pôle financier de la haute fonction publique et un pôle politique des élites gouvernementales de gauche et de droite.
Ce que vous dites à travers ce bouquin, c'est que rien de tout ça n'est irrémédiable, rien de tout ça n'est inexorable. C'est une affaire purement idéologique, d'une part, et d'autre part, conduite par des gens, alors, avec des trajets et des stratégies différentes, mais qui ont tous quand même le management à l'esprit, c'est-à-dire ce que vous disiez tout à l'heure, en montrant cette élite française, cette noblesse d'État d'aujourd'hui, qui est moitié business, moitié service de l'État, alors qu'il y avait quand même la noblesse d'État qui ne voulait pas du tout entendre parler d'argent. La politique ne se fait pas à la corbeille. Enfin, ces choses-là sont vulgaires. Alors, il y a quand même cette mixité aujourd'hui, ce métissage, qui déboussole beaucoup, mais en fait, c'est ça l'intention, c'est idéologie néolibérale, avec toutes les valeurs néolibérales qui vont avec, mais axée sur un but qui est le profit, pour simplifier.
C'est juste, mais je crois qu'il faut retenir l'idée que l'idéologie, les idées n'ont pas de force propre. Les idées ne fonctionnent que parce qu'elles sont portées par des groupes sociaux, et donc par des rapports de force. Dans l'immédiat, je crois que c'est aussi intéressant de voir que si ces transformations de l'État sont possibles parce que précisément elles correspondent à une période qui est celle d'une faiblesse historique du mouvement ouvrier, qui est celle d'une faiblesse historique, je veux dire, des mouvements populaires en politique. On se rend compte que le développement des États-providence, c'est-à-dire d'États plus redistributifs, je dirais, c'est le moment où, précisément, on a eu des mouvements ouvriers forts ou des gouvernements qui agissaient sous la pression de mouvements populaires importants, c'est là qu'ils ont redistribué. Je crois qu'aucun gouvernement n'a jamais redistribué par pure philanthropie. Je crois qu'on retombe sur une question qui est très très simple. C'est sans doute jamais nos sociétés n'ont produit autant de richesses. Et finalement, personne ne pose jamais la question de comment on répartit cette richesse. C'est-à-dire, où est-ce qu'on pose le curseur dans la répartition entre le capital et le travail, qui est une très très vieille question, et qui pour autant n'est plus posée politiquement.
La concurrence a oublié, quelque part en France, une vieille mémé qu'attend les sous
de son loyer et les mots doux d'un vieux pépé. Il faut que tu vois, faut que tu comprennes que cette fois la boîte est pleine. Non, tu peux pas voler le courrier ou sinon ça va péter. Ton almanach, on n'en veut pas. Y'a plus les fêtes ni les vacances, c'est une arnaque. Au lieu du chat, y'a les vedettes de la finance. Il faut que tu vois, faut que tu comprennes que cette fois la boîte est pleine. Non, tu peux pas voler le courrier ou sinon ça va péter. Si c'est le privé qui crée les lois, qui fera couler jusqu'à l'État, aucun facteur n'est négligé, aucun facteur sauf le postier. Il faut que tu vois,
il faut que tu vois,
faut que tu comprennes,
faut que tu comprennes
que cette fois la boîte est pleine,
la boîte est pleine.
Non, tu peux pas,
non, tu peux pas
voler le courrier,
voler le courrier,
ou sinon ça va péter.
Voilà, l'État démantelé enquête sur une révolution silencieuse. On a les explications de Laurent Bonelli, je vous renvoie à ce bouquin, l'État démantelé. Mais il y a un facteur très important là-dedans, c'est l'Europe, l'Europe, l'Europe. Souvenez-vous du projet de traité de constitution européenne de 2005 qui avait été refusé par l'ensemble des Français et qui est revenu par le traité de Lisbonne. Vous connaissez cette histoire. Le rôle de l'Europe dans le démantèlement de l'État, on s'est tourné vers Raoul Marc Génard, qui est chercheur en sciences politiques et qui a beaucoup travaillé sur la mondialisation, l'OMC et le poids, l'influence de l'Europe dans le démantèlement des États et du nôtre en particulier.
En fait, on a pris prétexte de l'intégration européenne, de cette idée d'unir les États européens pour démanteler les États membres, non pas pour remplacer la puissance publique, les puissances publiques nationales par une puissance publique européenne, mais au contraire pour tuer le principe même de la puissance publique, et en particulier dans le secteur des services, l'énergie, l'eau, les transports, la santé, l'éducation, la banque, les assurances. Et on l'a fait en invoquant un principe qui se trouve dès l'origine, pour ce qui concerne l'Europe, dans le traité de Rome, la libre circulation des services et des capitaux, qui dit libre circulation, dit dans cette logique-là, la logique libérale, libre concurrence. Et donc, à partir de ce moment-là, toute intervention publique, qu'elle soit financière ou qu'elle soit à travers des règlements, des règles sociales ou des règles environnementales, toute intervention publique devient une distorsion à la concurrence. Alors, on avait ce principe dans le traité de Rome, mais il a surtout été activé à partir de 1986, quand Jacques Delors a proposé ce qui s'est appelé l'acte unique européen, c'est-à-dire passer de la phase marché commun à marché unique. Et ça a été consolidé par le traité de Maastricht, où véritablement l'objectif, c'est de mettre en concurrence toutes les activités. J'ai même envie de dire toutes les activités humaines. Là-dessus, à peu près au même moment où se négociait le traité de Maastricht, se négociait la création d'une institution qui est exceptionnelle au niveau international parce qu'elle a des pouvoirs contraignants, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Et on négociait, au moment où on négociait le traité de Maastricht, on négociait les statuts de cette organisation et un certain nombre d'accords qu'elle est en charge de gérer depuis qu'elle fonctionne, c'est-à-dire depuis 1994, notamment un accord dont on a déjà parlé dans là-bas si j'y suis, qui porte un sigle barbare, AGCS, Accord Général sur le Commerce des Services, qui est une véritable programmation internationale contraignante de démantèlement des services publics et de privatisation des services publics. Finalement, on pourrait dire qu'on est dans une sorte de jeu de poupées russes. La première poupée, c'est internationale, c'est la GCS. Puis on a une poupée européenne avec l'acte unique européen, traité de Maastricht et une fameuse directive dont on a beaucoup parlé en 2005, la directive Bolkestein sur la libre circulation des services. Et puis une troisième poupée, plus petite, nationale, ben c'est la fameuse RGPP, la révision générale des politiques publiques, qui est en fait le prétexte, l'occasion, la motivation pour revoir les politiques publiques. Mais on sait dans quel sens cela va. C'est dans le sens des traités et des directives européennes et dans le sens de la GCS, c'est-à-dire dans le sens de la libre concurrence, de la compétition de toutes les activités à un niveau mondial. On est dans un processus qui a commencé il y a une trentaine d'années et qui continue, si on y prend garde, de démantèlement de ce que, en Europe et dans certains pays d'Europe notamment, on avait réussi à obtenir au fil de décennies de lutte sociale. D'ailleurs, Bourdieu a une formule superbe pour parler de l'Europe. Il dit la construction européenne s'apparente essentiellement à une destruction sociale.
Merci Raoul Marc Génard, merci Laurent Bonelli, merci Charlotte Perry. Toutes les informations sont sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse J'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, faire des commentaires, ainsi que sur labas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurence et Coy Nguyen et Franck Adérère qui ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebot et Marina Touillez. Attends vos messages, comme chaque jour, sur le répondeur de La Basse J'y suis, au 01 56 40 37 37.
Après l'esquive et après la graine et le mulet, France Inter présente le dernier chef-d'œuvre d'Abdelatif Kechiche, Vénus Noire, en DVD et Blu-ray. Vénus Noire ou l'histoire de la Vénus Hottentote. Phénomène des foires aux monstres au 19e siècle, martyr de la science, elle est aujourd'hui devenue un symbole pour l'Afrique du Sud. Vénus Noire, d'Abdelatif Kechiche, un DVD et un Blu-ray France Inter.
Voilà, 16h sur Inter, à demain, 15h pour La Basse J'y suis. Les infos, Corinne Audouin, salut.
Toutes les centrales nucléaires françaises vont être contrôlées, c'est ce que vient d'annoncer à l'Assemblée nationale le Premier ministre après la catastrophe qui touche la centrale de Fukushima au Japon. Les résultats de ces contrôles seront rendus intégralement publics, a précisé le Premier ministre. Mais une sortie du nucléaire en France ne semble pas du tout à l'ordre du jour. Pour François Fillon, il est absurde d'affirmer que le nucléaire est condamné par cet accident. Pourtant, en Allemagne, Angela Merkel a d'ores et déjà décidé la fermeture provisoire des 7 centrales mises en service il y a plus de 30 ans. En Espagne, l'organisation écologiste Ecologistas en Action réclame la fermeture de la centrale nucléaire de Garoña, la plus ancienne du pays, présentée comme la sœur jumelle de la centrale de Fukushima. Enfin, l'Union européenne envisage de soumettre les centrales nucléaires à des tests de résistance. Et les nouvelles en provenance du Japon sont toujours aussi inquiétantes. Le gouvernement japonais reconnaît que le niveau de radiation consécutif à l'incendie du réacteur 4 de la centrale pourrait endommager la santé des populations. Les habitants qui vivent dans un rayon de 30 km autour de la centrale sont invités à rester confinés chez eux, mais les informations les plus alarmistes viennent de l'extérieur. Selon l'Agence de sécurité nucléaire française, l'enceinte de confinement du réacteur numéro 2, destinée à isoler le cœur du réacteur, n'est plus étanche, ce que confirme l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique. L'accident de Fukushima est désormais classé au niveau 6 sur une échelle de 7. Et enfin, une nouvelle réplique du séisme de magnitude 6 s'est produite à 120 km au sud-ouest de Tokyo, où les immeubles ont tremblé. Le bilan officiel des victimes du séisme et du tsunami s'établit désormais à 3300 morts et plus de 6700 disparus. 4 Français sont portés disparus dans le nord-est du pays. La France n'a pas décidé d'évacuer ses ressortissants, mais va faciliter le départ de ceux qui le souhaitent. C'est ce qu'a expliqué le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, lors de la conférence. conférence finale du G8 à Paris. Le G8 qui n'a pas réussi à se mettre d'accord pour une intervention militaire en Libye. Dans leur communiqué final, les 8 grandes puissances se contentent de demander au Conseil de sécurité de l'ONU d'accroître ses pressions sur le colonel Kadhafi. Mais cela risque d'arriver trop tard. Les forces fidèles au régime annoncent avoir repris le contrôle total d'Ajdabia dans l'est de la Libye et les rebelles fuient la ville. Les insurgés ont également perdu le contrôle de Brega. La prochaine étape, ce sera sans doute l'assaut de Benghazi, le bastion de l'opposition. Claude Guéant tente de déminer le débat sur la place de l'islam en France. Dans un entretien au Monde, le ministre de l'Intérieur juge qu'il est impossible d'interdire le prône en arabe dans les mosquées françaises, comme l'avait envisagé le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé. Des propos salués par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker. Et puis pour la CGT de Renault, il est inadmissible que ce soit l'entreprise et donc les salariés qui payent pour les fautes commises par leurs dirigeants. Le PDG de Renault, Carlos Ghosn, s'est engagé à réintégrer et à indemniser les 3 cadres licenciés après avoir été injustement accusés d'espionnage.
Demain, dans Service Public...
Tous les mercredis, notre nouveau rendez-vous consacré aux jeunes et à la psychanalyse avec Serge Effèze. Question sur la famille recomposée. Comment évitons aujourd'hui le divorce? Est-il traumatisant pour les enfants? Et vous pouvez participer à notre débat sur franceinter.com.
Service public avec Isabelle Giordano, du lundi au vendredi à 10h. Une autre manière de vivre ensemble.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Frédéric L'Odéon et le Carrefour de L'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne. Carrefour de L'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir aujourd'hui de recevoir Brigitte Engerer, pianiste, brillantissime, on l'a vu aux Victoires de la Musique, elle a obtenu une récompense d'honneur. Bonjour, bonjour, bonjour. Brigitte. Et puis Henri de Marquette, non moins brillant, des violoncellistes que je préfère, on va le dire clairement, et puis qui fait une très très belle carrière, lui aussi. Bonjour Henri.
Bonjour Frédéric.
Brigitte Engerer d'abord est une des pianistes les plus brillantes et les plus originales de sa génération. Son jeu se caractérise par un sens artistique, un esprit romantique, une ampleur, la perfection de sa technique ainsi que sa science innée d'établir le contact avec l'auditoire. Voici l'ensemble de ses qualités, mais il y en a d'autres évidemment. C'est Stanislas Neuhaus, votre professeur pendant 5 ans en Russie, chère Brigitte, qui a écrit cela. Et donc ça vous touche, vous vous souvenez encore de ces années d'études, vous êtes allé chercher le savoir, la passion slave.
Oui, ça m'a marqué pour toujours, enfin ça fait partie de moi. Il n'y a pas longtemps, nous étions dans un train avec Henri, puis j'étais fatiguée, c'était le lendemain du concert, et j'ai dormi un petit peu dans le train, et il me dit: mais est-ce que tu te rends compte que quand tu dors, tu parles en russe?
Ah bon? C'est formidable. Oh, il y a des choses un peu délicates comme ça, vous savez. Bon, la dame qui appelle son amant, elle dort et au lieu de parler à son mari dans ses rêves, elle appelle un autre qui pourrait être Henri, par exemple. Bon, voilà. Alors,
c'était en russe, j'ai rien compris.
Alors en russe, bon, ça va. L'honneur est sauf. Alors de vous, Olivier Bellamy, cher et admirable collègue au monde de la musique, entre autres, a écrit Henri de Marquette, musicien passionné, personnalité aux facettes multiples. Il joue du violoncelle comme on embrase une forêt profonde. Pas un de ses coups d'archet ne laisse indifférent car il réveille l'inconscient de la musique. Hein, bon. On a tout dit là. Oui. Bon, bah alors au revoir. Allez, salut. Non, mais vous jouez ensemble. On va entendre tout de suite. Il y a un disque assez récent. On l'a diffusé un peu. Voici votre interprétation d'une romance opus 36 de Camille Saint-Saëns. Je trouve que c'est toute une époque. Il y a quelque chose peut-être d'un peu désuet, Henri de Marquette. C'est quelque chose d'un chant qui n'est pas très profondément romantique, mais qui touche une musique de salon.
C'est un peu une musique de salon, mais je trouve ça très, très tube. C'est une mélodie vraiment et très naturelle. Et je trouve que c'est difficile de la rattacher à une époque dans un sens. Donc ça se chante très, très volontiers. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette
pièce. La belle époque, on va dire.
Voilà.
En général.